pas être long, juste. Comment allez-vous tout le monde? Amen. Comment allez-vous? Nous sommes ici, si tu mets la prochaine diapo, nous sommes, chérie, si tu veux juste me mettre l'écran permanent, s'il te plaît, nous sommes dans une série de relations authentiques. En fait, en ce début d'année ici à Connect Grenoble, pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, et laissez-moi juste vous faire un petit historique de l'Église, mais c'est un jeune bébé. On a à peu près 3 ans et demi d'expérience d'existence. Excusez-moi, je cherche le mot, je suis fatigué. Et alors qu'on est en ce démarrage de début d'année, c'était comme si le Seigneur nous disait d'une façon vitale et importante, je veux que tu parles de la vision, qu'est-ce qu'on veut vivre. Et c'était très important pour nous en ce début d'année de poser des fondements sur à quoi sommes-nous appelés ici en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, et qu'est-ce qu'on veut vise spécifiquement ici à cette Église Connect Grenoble. Et du coup, on a commencé toute une série de messages sur un des fondements ici de cette Église, c'était de vivre l'amour du Père. Ok, je vais le redire. De vivre l'amour du Père. Et il y a plein d'endroits, dans plein de lieux où, et moi pendant des années, ce message était quasiment presque anecdotique, c'était pas tellement important, l'amour du Père, et puis quand tu me parlais de l'amour du Père, c'était pas quelque chose que je vivais, prêche Jésus, ouais mais l'amour. Et en fait, quand Jésus est venu sur terre, il nous a parlé, il nous a représenté le Père. C'est pour ça qu'il dira, lorsque vous priez, ne priez pas comme des pharisiens, ne priez pas comme des étrangers, des païens. Mais vous, quand vous priez, dites-lui « Abba, Papa ». Car c'est votre Père. Du coup, on a prêché, c'est toute une série de messages que vous pouvez retrouver disponibles ici sur le site de l'Église, Église Connect Grenoble. Et on rentre dans une deuxième phase de série de messages dans lequel on veut vivre des relations authentiques. Et je vous invite à écouter, il y a un message particulier qui a été prêché par Tiffany et Romain la semaine dernière. C'était fort, c'était puissant. Qu'est-ce que les relations authentiques? Les relations authentiques, c'est fou parce qu'on a, cette capacité à porter un masque à l'Église. C'est d'ailleurs un des endroits très propices où c'est facile de porter un masque. Donc vous avez le droit de faire la gueule, vous avez le droit d'être triste et c'est ok. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui c'est ok, si t'es pas bien c'est ok. T'as le droit, ça arrive, c'est possible. C'est possible. Et du coup, on va voir ensemble, dans la parole de Dieu, c'est quoi vraiment avoir des relations authentiques? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous inspire? Et tu as le droit d'être joyeux aussi, exactement ma chérie. Il y en a qui sont joyeux plus que d'autres, et puis ensemble, nous formons une douce communion. Ici, j'aimerais, si tu mets la prochaine diapo, j'aimerais vous parler aujourd'hui, il y a, si tu mets juste la diapo d'après, je vais y arriver, juste celle d'après, et non, bon ok, tant pis, oublie les diapos, c'était pas le bon diapositive, peu importe, il y a ce passage dans la Bible, vous savez, quand David vient confronter Goliath. Vous vous rappelez ce passage? Qui a déjà entendu ce passage ou qui l'a jamais entendu? Qui l'a jamais entendu? Non mais c'est pas... jamais entendu parler? Ok, alors juste, je vais vous expliquer. Il y a cette situation-là où David, c'était un jeune berger dans la maison d'Israël qui rassemblait le peuple de Dieu et qui présente le peuple de Dieu comme c'est notre cas aujourd'hui. Et il y a cette situation un peu particulière où il y a les Philistins, donc les méchants, l'ennemi, qui vient combattre le peuple d'Israël, qui vient combattre le peuple de Dieu. Et pour la première fois, les ennemis d'en face adoptent une stratégie différente, c'est qu'il y a un géant qui vient devant le peuple de l'armée. Il les ridiculise, il leur dit « Envoyez-moi un homme qui combatte avec moi en combat singulier ». Et il y a cette situation de blocage finalement spirituel. Il y a cette situation où toute l'armée d'Israël, l'armée, le peuple de Dieu a complètement peur. Ils sont paralysés, ils sont figés par la peur. Ils n'arrivent plus à avancer. Et ça peut ressembler peut-être des situations dans nos vies où quand tu fais le bilan, tu n'évolues pas. Spirituellement, tu as peur, tu n'évolues pas, il n'y a rien qui se passe. Et parfois, il est possible que Dieu va t'envoyer dans ta vie des David, des gens qui vont confronter peut-être des choses, des géants dans ta propre vie, qui vont peut-être faire des choses que tu n'as jamais osé faire. Et David, en fait, quand vous lisez l'histoire, je vous invite à la lire dans la Bible, c'est dans 1 Samuel, où David, en fait, il n'est même pas prévu, il n'est même pas invité, il vient ici par hasard. Et il voit ce géant venir et David le confronte. Il dit « Mais c'est pas normal cette situation. » Et il confronte le géant. Et à ce moment-là, il y a deux attitudes que David va être confronté. La première, c'est qu'il y a son frère qui vient et qui commence à le médire. Qui commence à lui dire « Mais qu'est-ce que tu viens faire là, espèce de petit prétentieux ?» Voilà, c'est ça. Son frère qui vient et il est dans le rôle du persécuteur. Et c'est ce que j'appelle l'esprit d'Eliab, le rôle du persécuteur. En gros, c'est quoi ? Il critique, il dévalorise, il ironise. Mais je le lis pour vous. Mais Eliab, son frère aîné, entendait que David demandait aux soldats. Alors il lui dit, il se fâche contre David et il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es venu ici ? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. Et David lui répondit, mais hey, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai simplement posé une question. Puis David tourna le dos à son frère et finalement il va voir d'autres personnes, il pose la même question qu'il avait posée à d'autres soldats et chacun lui donna la même réponse. En fait, quand David décide de faire des choses que personne n'a fait, au lieu d'avoir de l'enthousiasme, au lieu d'avoir de l'encouragement, au lieu d'avoir « Wouhou, chouette, c'est génial, tu vas nous sortir de la panade », il y a des gens où leur seule façon de t'encourager, c'est de te critiquer. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça ? Et d'ailleurs, soit dit en passant, en tant que Français, on a une capacité hallucinante et remarquable de dire tout ce qui ne va pas chez les autres, n'est-ce pas ? C'est comme dans nos gènes. Nous, on va te garder humble et on va te dire ce qui va pas. J'aimerais vous proposer que dans la mentalité du peuple de Dieu, nous soyons une mentalité pro-encouragement. Tu sais quoi ? Vas-y, t'es capable. Tu sais quoi ? T'as du mal ? On va être là. On va t'aider. On va te bénir. On va prier pour toi. Qu'on fasse une différence. Mais ça vous demande un rôle. Ça me demande, ça vous demande d'adopter presque une, je dirais, une attitude contre notre culture personnelle à nous. Vous êtes avec moi ? Et du coup, il y a souvent dans les rôles, dans les relations, et si on veut que ce soit des relations authentiques, si tu remets la diapo juste avant, Tiffany et Romain nous parlaient de, je dirais, cette triangulation dans laquelle toute personne, on saute et on jump d'un rôle à un autre. Souvent dans les relations, on est souvent les victimes. Oh, c'est difficile. Oh, ça va pas bien. Et en fait, parce qu'on est des victimes, c'est toujours les autres qui nous font du mal et on se remet jamais nous en question. Est-ce que ça vous arrive ? Alors, pas de rencontrer des gens comme ça, mais d'être vous dans cette situation-là. C'est ça va mal en ce moment. Et puis, on aime être plein. Et il y a des gens, à chaque fois, il n'y a rien qui sort de bon d'eux. Il y a toujours cette espèce de victimisation. On se plaint, on s'apitoie. Et il y a d'autres personnes, on est souvent dans le rôle du sauveur. Le rôle du sauveur, c'est quoi ? C'est je ne peux pas m'empêcher de t'aider. Je ne peux pas m'empêcher de venir essayer de te trouver des solutions. Et troisième rôle, c'est souvent ce que je parle ici du frère d'Eliab, du frère de David, Eliab. C'est le rôle du persécuteur, il critique, il ironise. Alors on va parler également de l'esprit de Saül, c'est le rôle du sauveur. Si tu mets la prochaine diapo juste après, s'il te plaît. Juste après, rôle du persécuteur. Le rôle du sauveur, c'est celui-là qui ne peut pas s'empêcher de vous aider, de vous trouver des solutions, parfois même au détriment de l'autre. Et là, lorsque David devait partir à la guerre et affronter ce géant, Saül, qui était le roi d'Israël à ce moment-là, voici ce qu'il va lui dire. Il lui dit, tu ne peux pas aller te battre contre ces géants. Toi, tu n'es qu'un gamin. Tu n'es qu'un jeune garçon. Regarde sa taille. C'est un basketteur. Toi, tu es un nain à comparer de lui. Ce n'est pas possible. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Et David répondit, le Seigneur me protège des griffes du lion et d'autres animaux sauvages. Il va me protéger de ces attaques de ce Philistin. Alors, Saül dit à David, pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Saül donne à David, du coup le roi Saül, littéralement il va équiper David de son équipement de guerre. Il met son casque de bronze sur sa tête, il l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus de sa cuirasse, il avançait mais il n'y arrivait pas. Et en effet, il n'était pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, avec tout ça je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. Et du coup il enlève l'équipement de Saül, David prend son bâton. Et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger, il prend sa fronde dans sa main et il s'avança vers Goliath. C'est tellement puissant cette scène-là. Regardez, donnez-moi toute votre attention. Il y a un géant qui vient et qui ridiculise le peuple de Dieu et qui les met dans un espèce de blocage spirituel. Et quand vous lisez l'histoire, David avait remporté des combats auparavant à ce précédent combat, avec des ours, avec des lions, et il avait gagné en confiance. Et quand il est devant ce géant, pour lui, c'était la suite d'un combat logique. Pour lui, ce géant représentait un autre ours ou un autre lion. T'as peut-être pas la même crinière, t'as peut-être pas les mêmes dents, mais l'Éternel est avec moi, tu vas manger. Est-ce que vous me suivez ? Je vais te battre. Et toute l'armée d'Israël, ils avaient peur en disant « Waouh, il est énorme, il va tous nous tuer ». David venait avec sa fronde, il l'a enroulé, il a fait « Waouh, il est grand, je ne peux pas le louper ». Il avait la même vision, mais un esprit différent. Et ce qui est intéressant ici, c'est que alors qu'il veut aller combattre les géants, il y a cet autre rôle-là, le rôle du sauveur, qui vient et qui lui met sur lui son armure, qui pèse des kilos, et dit « Avec ça, tu vas aller te battre ». Sauf que David, il ne peut même plus avancer. Et en fait, le point est le suivant, c'est que tu peux avancer avec que l'autorité que Dieu t'a donnée. Et parfois, il y a des gens, même bien intentionnés, ils vont poser une autorité sur toi, des attentes, des titres, peut-être des responsabilités, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et si tu prends ça sur toi, ça va t'atrophier. Et si Dieu n'est pas à l'origine de cela, tu vas t'étouffer. Et quand on lit la prochaine slide, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que David, pour aller combattre ce géant, il a choisi 5 pierres ? Alors que quand vous lisez l'histoire, Dieu, en une pierre, il a visé juste, la pierre est allée dans le crâne du géant et ça l'a tué. Alors je dis, mais pourquoi est-ce qu'il a pris 5 pierres ? Alors que Dieu avait prévu que dès le premier coup, il allait faire mouche. Et quand on lit le texte d'après, et on découvre que Goliath avait 4 frères. Et c'est une façon un peu prophétique que David a eue, où il a tué un géant, sauf que David a ouvert une voie à d'autres personnes. Et quand vous regardez l'histoire des géants, et je me suis intéressé à ces autres géants qui sont mentionnés dans Samuel, c'était les frères de Goliath. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces géants mentionnés dans la Bible appartenaient à une race de géants. Et c'est d'autres personnes autour de David, ce qu'on appelle les vaillants hommes de David, qui vont tuer les autres géants. Mon point est celui-ci. C'est lorsque vous décidez de marcher avec l'autorité que Dieu vous donne, lorsque vous décidez de marcher dans ses plans, avec non pas l'armure des gens, non pas l'armure des hommes, vous allez inspirer d'autres. Il y a d'autres qui vont se mettre à remporter des combats pour leur géant à eux personnels. Est-ce que vous êtes avec moi ? Du coup, n'aie pas peur d'affronter ton géant, n'aie pas peur de combattre avec ton onction, avec qui tu es. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur poses la question, ils disent « moi, je n'ai pas reçu grand-chose ». Non, mais en fait, c'est Dieu en toi. Si Dieu est en toi, tu peux faire de grandes choses. Et l'esprit de Saül, prochain diapo, c'était « t'es qu'un gamin, tu ne peux pas aller combattre, prends mon armure ». Et quelque part, souvent, si on est authentique ce matin, c'est qu'on veut encourager les autres, mais seulement à partir de nous-mêmes. C'est un garçon qui regarde une jeune fille et qui lui dit « Ce que j'aime chez toi, dans tes yeux, c'est mon reflet. » Et souvent un peu, on est comme ça. J'apprends à te connaître et ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un peu comme moi. Toi et moi, on pense pareil. Ah oh là là, on a plein de points communs. Est-ce que vous y êtes ? C'est ce que j'aime comme chez toi, c'est que tu es comme moi. Est-ce que vous suivez ? Donc, mais en fait, est-ce que vous êtes capable d'aimer les gens réellement pour ce qu'ils sont ? Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es complètement différent de moi. D'ailleurs, ça me fait un peu peur. Mais c'est tellement beau que tu es différent. Tu es câblé différemment, tu penses différemment, tu as une sensibilité différente. Alléluia ! Et souvent, si on veut être authentique les uns les autres, il faut qu'on accepte qu'on soit différent des autres. Mais que tu acceptes que les autres soient différents de toi et que ce n'est pas un problème pour toi. Vous êtes avec moi ? Du coup, quand on voit Saül, lui, il avait remporté cette espèce d'armure de Saül, a remporté des combats, des victoires, des guerres. Et parce que Saül veut aider David, il dit, si tu veux aller battre ces géants, ben, il va falloir que tu le fasses à ma façon. Il va falloir que tu prennes mon armure, il va falloir que tu te battes comme moi. Sauf que David, il n'était pas habitué à ça. David, c'était un jeune berger. Avec une fronde, il pouvait faire des ravages. Et dit, moi, je suis désolé, monsieur, je vais le faire différemment. Mais Dieu est avec moi. Et il y a beaucoup de gens, un peu comme Saül, bon, allez, vas-y, je te donne une chance. Je vais voir si tu vas pouvoir y arriver. Bon, même si c'est pas à ma façon, mais parfois on est tellement imbibé de nous-mêmes, on est dans le contrôle pour voir comment tu fais, pour voir. Mais les amis, laisse Dieu faire les choses dans la vie des gens. C'est bien intentionné, mais excusez-moi, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas moi. L'armure de Saül peut nous étouffer. C'est cette espèce de fausse identité parfois qu'on met sur toi. Et peut-être qu'on a mis sur toi depuis ton enfance, depuis longtemps. Parfois, il y a des gens, vous venez ici, il y a une forme de religiosité peut-être auquel vous êtes habitué. J'aimerais vous dire, je ne sais pas quel est votre arrière-plan d'église, mais si tu viens ici pour la première fois, bienvenue pour vivre une église différemment. Et on va te demander d'être vrai. On va te demander de faire tomber ton masque. On va te demander, et c'est ça en fait dans l'idée d'avoir des relations authentiques, c'est de vivre des relations qui sont vraies, qu'on tombe le masque, qu'on accepte de tomber la face, qu'on accepte d'être vrai. Et parfois il y a ces espèces de costumes d'emprunt, et quelque part l'armure de Saül, c'est ce que je ne serai jamais. Et j'aimerais maintenant vous présenter un esprit qui est complètement différent. C'est l'esprit de Jonathan, si tu mets la prochaine diapo. Jonathan, dans la Bible, va être un des meilleurs amis de David. Et Jonathan, si tu mets la prochaine diapo... Ah, il n'y en a plus. Bon, ok, d'accord. Jonathan, mais qu'est-ce qu'il a... Décidément, le diable m'attaque. L'esprit... En fait, Jonathan, c'était quelqu'un qui est venu complètement dans la vulnérabilité. Je le lis pour vous. Quand David eut fini de parler à Saül... Le fils de Saül, Jonathan, s'attacha à David de tout son cœur et il se mit à l'aimer comme sa propre âme. Et ce jour-là, David garda Jonathan auprès de, David auprès de lui. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Alors Jonathan a fait un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Et Jonathan, écoutez bien ceci, il va enlever sa tunique de prince héritier qu'il porte et il va le donner à David avec son équipement de guerre. Il va donner également son épée, son arc et sa ceinture. Et quand je lisais ce texte, ce qui est intéressant, je disais, mais le père, le roi Saül et Jonathan, tous les deux ont donné la même chose à David. L'un a donné une armure, l'autre a donné son arc, son épée, ses vêtements. Sauf qu'avec Saül, c'est mal vu et avec Jonathan, c'est bien vu. Pourquoi Pourtant, les deux ont donné quand même quelque chose à David. Sauf que Jonathan l'a fait avec un esprit qui était différent. Jonathan, quand il a donné, en fait, littéralement, j'ai lu dans le texte hébreu, c'est très désarmant, c'est qu'il s'est dépouillé, il s'est mis à nu. Et quand il a enlevé son manteau et sa tunique, à cette époque-là, c'est peut-être un peu choquant, mais c'est des commentateurs bibliques. Je lisais ça, c'était très intéressant. Ils disaient qu'ils n'avaient pas de sous-vêtements. il s'est mis à nu au propre sens du terme. Tellement vulnérable. Il a donné son arc, il a donné son épée, son bouclier. Et en fait, sa robe et sa tunique représentaient son héritage. C'est-à-dire que moi, je suis appelé à être le futur héritier du roi. Et quelque part, quand il disait ça à David, il disait « Je te donne ma position, je te donne mon titre, je te donne tout cela. Je ne vais pas être en rivalité avec toi. » Également, quand il donne son épée, c'est qu'il va dire « Je te donne ma capacité à te blesser. Si quelqu'un te fait du mal, ce ne sera pas moi. Je ne vais pas te blesser, je ne vais pas te mettre un couteau dans le dos. » Il va également donner son bouclier. Et son bouclier, littéralement, c'est « Je m'ouvre à toi. » Je suis vulnérable. J'accepte également que tu me fasses du mal. Je te donne mon bouclier. Il a également donné son arc et ses flèches. Et la flèche représente, vous savez, les paroles qu'on peut tirer sur des gens. La flèche représente les choses qu'on peut dire. Que parfois, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous marchez comme ça, puis tout d'un coup, il y a une flèche, il y a quelque chose que vous apprenez, qu'on a dit sur vous, ah, ça vous blesse. Et Jonathan est... Par cette action-là, il est en train de te dire, ce n'est pas moi qui vais tirer des flèches, ce n'est pas moi, je fais un pacte avec ma bouche. Je ne vais pas dire des choses sur toi. Est-ce que vous me suivez ? C'est ça qu'on appelle les relations authentiques. Et si on veut grandir dans les relations authentiques, c'est cette dimension de vulnérabilité. Et parfois, on pense que quand les gens sont vulnérables, ils sont faibles. En fait, c'est faux. Ça demande beaucoup de force pour être vulnérable. Jonathan a vu David aussi, il voyait cette histoire, il a vu le combat avec le géant Goliath. Jonathan a vu aussi le héros qui est né au travers de David. Mais Jonathan, il a vu cette légende naître sous ses yeux. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne l'a pas du tout vu en compétition, il ne l'a pas vu s'élever plus haut que lui, il a décidé de l'honorer. Les amis, si vous vous rendez vulnérable, vous allez être encore une source d'inspiration pour d'autres personnes. Et parfois, ce qui est compliqué, et c'est souvent comme ça le cas à l'église, c'est qu'il y a toujours... Ouais, je sais pas comment vous voyez, mais on a du mal à être vrai, on a du mal à être vrai à l'église. Vrai ou pas vrai ? On peut être vrai... En boîte de nuit, en discothèque, on peut être vrai au bar du PMU. Mais à l'église, c'est comme si on porte un masque. Non, ça va bien, alléluia. Oui, que le Seigneur bénisse. Tu vas bien. Oh, le Seigneur est bon. Non, en fait, tu viens de te prendre la tête avec ta femme dans la voiture. Mais alléluia. C'est vrai. Il y a cette espèce un peu de... Et est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ça ou ça vous parle ce que je dis ? Quand vous êtes OK, madame, vous avez le droit de dire « Amen » quand vous voulez. Ça veut dire « Continue, c'est pas mal. » Et c'est fou, il y a toujours une partie de nous-mêmes où on n'ose pas être vrai. Et j'aimerais vous tendre l'idée. Dans cette nouvelle église, ici à Connect Grenoble, nous aimerons démarrer comme un pilier qu'on fonde ici. T'as le droit d'être vrai. T'as le droit d'être toi-même. T'as le droit de ne pas porter un masque. Au contraire, c'est ce qu'on veut. Et t'acceptes d'être vulnérable auprès des personnes. T'acceptes de baisser la garde. On a tous une zone 51 dans notre cœur. Vous savez ce que c'est la zone 51 ? Ça vous parle ? Qui connaît la zone 51 ? Qui ne connaît pas la zone 51 ? Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Aux États-Unis, dans le désert du Nevada, il y a une zone, c'est une zone militaire, très difficilement d'accessibilité, qui est complètement protégée, ça s'appelle la zone 51. Et en fait, on ne sait pas trop ce qui se fait là-dessus, c'est mystérieux, il y a même un gars, il y a des gens qui se sont fait abattre alors qu'ils sont allés sur cette zone-là. On dit que dans cette zone-là, on fait des soucoupes volantes, des trucs des aliens, tout ça c'est le gouvernement qui est derrière, etc. Bref, il y a toutes sortes de théories, la zone 51. Tu sais, c'est l'endroit dans lequel personne ne va. Et dans cette zone 51, c'est l'endroit que personne n'a le droit d'aller, c'est l'endroit que personne ne visite. Et je m'aperçois que dans mon cœur à moi, à Jonathan Valbon, il y a une zone 51 dans laquelle je ne m'y rends jamais, dans laquelle personne n'a le droit de rentrer, pas même Dieu. Je veux dire, Dieu fait ses affaires, moi je fais les miennes, il est gentil, moi je suis gentil, les gens sont gentils, alléluia, on s'aime. Vous voyez ? Sauf que quand Dieu vient dans ta vie, il veut aller dans la cave de ton cœur. Il veut aller dans l'endroit où personne ne s'y rend pour te guérir, pour te changer, pour te transformer. Et c'est comme si parfois on invite Jésus dans notre cœur et tu fais visiter le salon. Tu fais « Salut, ça va, installe-toi ici, c'est cool. Je te fais visiter la cuisine. Oui, oui, la cuisine, c'est là. » Puis tu veux un café, Jésus, prends un café. Ouais, c'est... Oh, on m'a tellement parlé de vous. Oh, je vais à l'église, moi, j'ai toujours été pratiquante. Hein. Jésus, il me nomme. Oh, oh, c'est beau, Jésus, moi, j'aime la foi. J'aime... Oh là là, vous m'avez touché, j'aime les valeurs de Jésus, de l'amour, tout ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Sauf que Jésus, quand il vient, une fois qu'il a visité et qu'il a pris son café, il dit, ok, est-ce que tu m'amènes maintenant dans la cave de ton cœur ? Et là, parfois, la cave de notre cœur, c'est l'endroit où on a enfermé quelques cadavres. Vous savez, les cold cases, il y a telle personne, je l'ai pardonné, je l'ai enfermé ici il y a 25 ans parce qu'il m'a fait du mal. Il y a tel souvenir, tel traumatisme. C'est l'endroit dans lequel Seigneur visite tout l'appartement, mais pas la cave. Est-ce que vous me suivez ? Laisse ma cave tranquille. Sauf que, Jésus, c'est l'endroit où il veut aller pour vous délivrer, pour vous changer, pour vous transformer. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que la cave, ça pue. C'est qu'il y a des moments où si tu ne règles pas et si tu ne sors pas tout ce qu'il y a dans ta cave, ça va te consumer, ça va te dévorer, ça va te transformer, ça va te rendre dans toute l'identité, dans tout ce que tu désires ne pas être. Ok ? Donc l'objectif, ce n'est pas de clôturer, de fermer la cave. Ce n'est pas de couler une chape de béton en disant non, ça n'a jamais existé. Non, en fait, il faut que tu acceptes que Dieu rentre pour faire du nettoyage. Ok, j'avance rapidement. Jonathan a donné ses armes, signe d'humilité, on a vu tout ça ensemble. Jonathan a donné son armure, ses vêtements, ses armes. Il ne s'est pas imposé, c'était toute un don, c'était une offrande. Et en fait, c'est cela à quoi Dieu nous appelle. Et mon dernier point est celui-ci, c'est que parce que Jonathan a montré l'exemple à David, parce qu'il l'a fait avec David, quand vous regardez l'histoire de David, dans toute sa vie, et je crois que c'est le début de quelque chose, c'est comme si Jonathan lui a montré l'exemple, c'est que David va être authentique et sincère devant Dieu et devant les hommes. Et il y a un autre passage, vous pourrez lire à la maison, je ne veux pas le lire aujourd'hui, c'est un peu trop long, mais il y a un autre passage où David accueille l'arche de l'Éternel dans Jérusalem. Et ce que vous devez comprendre, dans la pensée juive de l'époque, c'est que l'arche de l'Éternel représentait la présence même de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait mis dans un espèce de coffre sa loi, son code moral, que les gens devaient regarder et observer. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas. Et les gens juifs devaient respecter ce code, je dirais civil, pénal, qui était renfermé dans un coffre. Et en fait, Dieu disait, si tu veux marcher avec moi, si tu veux être béni avec moi, eh bien, il faut que tu respectes ça. Et dans ce coffre, littéralement, les Juifs l'embarquaient avec eux. Et Dieu, la présence même de Dieu, elle était littéralement posée au-dessus de ce coffre. Et plus, dans la pensée juive, plus vous étiez loin du temple où il y avait ce coffre, plus vous étiez malchanceux. C'est pour ça que quand on vivait à Jérusalem, on voulait être proche du temple, proche, proche, juste à côté, pour être proche de la présence de Dieu. Vous êtes avec moi ? Et il y a ce coffre qui, pendant quelques années, va être loin d'Israël, déporté dans un camp ennemi. Et il y a un moment donné où il réussit à remettre la main sur le coffre et il ramène la présence de Dieu au milieu du peuple. Et David décide de faire une fête. de la fanfare, des cymbales. Il présente, il fait des sacrifices et littéralement, il se met à nu. Enfin, en slip. Mais qu'un roi se mette en petite tenue, il s'est mis à danser devant les yeux de tous. C'était pas commun, c'était humiliant, c'était presque un peu dévalorisant. C'était un roi se mettre à nu comme ça, mais un roi, c'est plutôt quelqu'un qui a de la splendeur, il a une couronne, il a des habits royaux. Regardez, je suis le roi. Et David a littéralement tout arraché, a fait ça voler en éclats. Mon apparence, je garde la belle face, je suis beau devant toi. Il a jeté tout ça. Et il a dansé, wouhou, accueillant la présence de Dieu. Mais parce qu'il y a quelqu'un avant, Jonathan, qui s'est mis à nu en enlevant son manteau de roi, en enlevant ses armes et en disant, voilà, je suis un mec, je suis un homme qui aime Dieu et je me rends vulnérable à toi. Et David s'est rendu vulnérable aussi devant Dieu dans ses psaumes. Quand vous les lisez d'une façon déconcertante, d'ailleurs si vous ne vous sentez pas bien, lisez les psaumes. Parce que quand tu les lis, tu dis, ça me parle, j'ai l'impression qu'il vit ce que je vis parce qu'il est vrai. Et en fait, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez vrai. Quand vous le priez, quand vous lui dites les choses, il aime pas que vous portiez un masque. Parce que Dieu ne change jamais la vie d'un masque. Il change la vie de la personne qui est derrière le masque. Est-ce que tu es avec moi? Du coup, il faut que tu fasses tomber le masque. Il faut que tu sois vrai. Il faut que tu cesses d'être parfois sous des attitudes, peut-être pour certains, de religiosité, je dirais, je ne tombe pas la face, je me suis habitué à ça. Et souvent, les amis, et je vais être franc avec vous, ces attitudes-là, c'est quelque chose qu'on a hérité. Et il est possible qu'on puisse hériter ça, je dirais, de l'endroit dans lequel on s'est construit. J'ai la chance d'avoir un papa et une maman qui ont été extraordinairement vulnérables dans leur vie, comment ils étaient à la maison, ils étaient à l'église. Mais parfois, il est possible que dans l'endroit où on s'est construit, dans l'endroit où on a grandi, chez moi, à la maison, non, on ne faisait pas ça. Chez moi, à la maison, non, on n'était pas comme ça, on n'était pas. Et du coup, c'est comme si on impose sur toi des liens, on impose des liens générationnels, on impose des façons d'être. Et j'aimerais te dire que cette année 2025 soit une année de démarrage pour toi, une année nouvelle où tu puisses dire à Dieu, cette année, je décide de changer. Cette année, je décide de faire tomber la face devant Dieu et devant les hommes. C'est tout. Voilà. Acceptez d'être vrai. Et si on est vrai les uns avec les autres, eh bien en fait, quelque part, les gens vont se sentir touchés, bénis, parce qu'il règne de l'authenticité. J'ai regardé le processus de Alcoholique Anonyme. Qui connaît Alcoholique Anonyme aux États-Unis, très très répandu. Si c'est votre cas, soyez bénis. Et si vous avez des problèmes avec l'alcool, on peut prier ensemble que Dieu vous libère. Mais ce qui m'a touché alors que je voyais toute la fondation de Alcoolique Anonyme qui était à la base aux États-Unis, qui s'est répartie partout dans le monde. En fait, il y a des étapes et un processus. Et au début, la première étape du processus, il faut que tu reconnaisses que tu as un problème avec l'alcool. Sinon, ça va être compliqué de changer. Mais le premier truc, c'est que tu es conscient que tu as un problème. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de commencer à en parler, d'être vrai. Et en fait, il dit, si tu n'es pas vulnérable, ça ne marchera pas. Et du coup, les gens viennent. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde a le même problème. Sinon, ils n'étaient pas là. Et puis le fait que les gens sont vrais, le fait qu'ils mettent des mots sur leur histoire. Moi, ma femme, elle m'a quitté. J'ai perdu mon job. J'ai commencé à tomber en dépression et puis j'ai commencé à boire. Et puis là, il t'explique sa vie. Et en fait, il y a un effet presque thérapeutique qui est de mettre des mots dessus, de commencer à en parler. Et en fait, tu t'ouvres, t'ouvres là, tu tombes le masque, t'ouvres ton cœur et tu laisses d'autres voir ce qu'il y a de plus noir en toi. Eh bien ça, c'est thérapeutique. C'est la pire chose qu'on ne veut pas faire, mais c'est thérapeutique. Parce que, écoutez bien, et c'est très intéressant là, quand ils en parlent, ils disent à ce moment-là, c'est les gens qui sont obligés soit de t'accepter ou soit de te rejeter. Mais toi, tu as fait ta partie, tu avoues et tu acceptes d'être comme tu es, là où tu en es, et tu laisses la possibilité aux autres de réagir comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Et tu sais quoi ? Ce qui est hallucinant, c'est que parce que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde a les mêmes combats, tout le monde se rend vulnérable, il y a une communauté, il y a une force, et les gens sortent de leur dépendance. Waouh ! Les amis, je vous défie qu'à l'église Connect Grenoble, il y ait plus d'amour et plus d'onction qu'aux alcooliques anonymes. Parce que je trouve que c'est pas normal que les alcooliques anonymes sont plus vrais, sont plus authentiques que parfois dans certaines églises. Je dis ça, je dis rien. Du coup, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Qu'on puisse être vrai, qu'on puisse être authentique. Et en disant, bah, écoute, actuellement, on voit ma situation, c'est que je galère avec ça. Je galère avec ça, je galère avec ça. Eh bien, tu sais quoi ? Viens tel que tu es. Et tu sais, en fait, ce qui est touchant, c'est que quand Jésus voit la femme samaritaine, c'est une autre histoire dans la Bible qui est charmante et qui est jolie, que vous pouvez lire. C'est une femme qui était, sa vie était en épave sentimentale. Elle a eu 5 mecs dans sa vie, et le mec avec lequel elle était, c'était même pas son mec. 5 fois elle s'est mariée, 5 fois elle a cru en l'amour, 5 fois. Et quand Jésus lui parle, elle essaye de garder un peu le peu d'apparence religieuse qu'elle a. Et Jésus dévoile sa vie en disant, je sais que tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Et là, elle est comme dérangée. Et Jésus commence à lui parler de son cœur. Jésus ne la juge pas, Jésus ne la condamne pas. Waouh ! Et cette femme a complètement, sa vie a été complètement transformée parce que Jésus l'acceptait telle qu'elle était. Du coup, le premier processus qu'on aimerait vous proposer ici, les amis, c'est de vous rendre vulnérable, c'est de tomber la face, c'est d'accepter que les autres soient différents peut-être de vous, et c'est d'accepter aussi qu'on est en chemin et qu'on est tous imparfaits. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle, moi le premier. Mais ça me fait, c'est un peu thérapeutique d'en parler avec vous, parce que je sens que maintenant j'évolue et je change, ma femme le dit souvent. Est-ce que vous me suivez ? C'est que Et parfois, il y a des gens qui croient que le pasteur, il a tout réglé dans sa vie, qu'il est parfait. Non, attention les amis, je suis moi-même en chemin comme vous. J'ai moi-même mes choses à travailler. Mais il y a une chose que je peux vous dire et que je peux m'engager envers cette église, c'est moi aussi à avancer, à me remettre en question. Moi aussi à plaider, à marcher devant Dieu, à chercher sa face, sonde mon cœur, connais mon cœur, oh Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il y a toujours cette responsabilité que moi j'ai en tant que leader, en tant que responsable, c'est de me placer devant Dieu. Parce que avant que je vous prêche et que je vous dise des choses, moi il faut que je les vive. Parce que sinon, je suis hypocrite. Du coup, on aimerait se mettre dans un club d'authenticité, dans une famille d'authenticité où chacun puisse être vrai. Et je termine avec ça. J'étais une fois dans une église et il y a un gars qu'on avait évangélisé qui s'appelait Laurent. Laurent, c'était un de mes meilleurs amis, un de mes meilleurs potes. Et en fait, c'était un gars, il avait été dans la drogue, dans la cocaïne, héroïnomane, c'était un fou furieux. Et un jour, il s'est retrouvé dans une discothèque en Hollande. Il s'est trouvé dans des convois de drogue, ce qu'on appelle les go-fast, entre la Belgique et la France, où il était dans des voitures à toute allure. Et me demandez pas comment, mais comment Dieu seul peut le faire. Sa mère priait pour lui depuis des années. Et à chaque fois, je m'en fous de ton Dieu, c'est une secte. Et un jour, Laurent est dans une discothèque en Hollande. Il a pris je ne sais pas quelle drogue et il sent littéralement son cœur battre et il sent qu'il va mourir. Et il me raconte cette histoire. Il dit à ce moment-là, je suis aux toilettes en Hollande dans une boîte de nuit. Ça fait fort dans le... Je t'explique même pas dans l'état des toilettes. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, je vous laisse imaginer, mais il était sur le, tu sais, le truc où on sèche les mains, là. Il était dessus en train de mourir et il crie à Dieu en disant « Seigneur, j'en ai marre de ma vie, sauve-moi et aide-moi. » Toute une histoire, je vous la fais longue, je vous la fais courte, mais il y a un moment donné où il est venu à l'évangile, Dieu l'a changé, nettoyé, transformé, toutes ses addictions, toutes ses chaînes. Mais quand moi je l'ai rencontré, il était encore brut de décoffrage. Vous comprenez ? Il était encore... mais il était sincère, il était vrai. Il était devant, il pleurait, et c'était fou comment il était passionné pour Dieu. Il sortait dehors, il évangélisait, il parlait de l'amour de Dieu à des gens, des drogués, les gens pleuraient. J'ai rarement vu une puissance de Dieu aussi forte sur quelqu'un que sur ce gars-là. Et moi, j'étais le chrétien parfait. Moi, j'étais en costume. Vous comprenez, moi, je savais me tenir, moi. J'ai grandi à l'église. Je suis un chrétien 4 étoiles. Vous comprenez ? Quand je le voyais, lui, mais il avait un feu, il avait une passion que je n'avais pas. Du coup, ça m'a donné envie d'être comme lui. Alors que lui, il n'avait que quelques mois, quelques années de conversion. Est-ce que vous me suivez ? Que, en fait, ce n'est pas vos années de vie chrétienne qui font le poids spirituel que vous avez. C'est de réaliser la grâce et l'amour de Dieu pour votre vie qui vous donne du poids. Et ce qui me plaisait, c'est que, et un jour, on était avec des gens chrétiens, tu sais, des gens bien chrétiens diplômés, quoi, d'université, des gens qui savent se tenir. Et puis lui, on amène Laurent. Et là, il tombe à genoux, ah Seigneur. Et il dit dans ses mots, Seigneur, merci de m'avoir délivré de cette putain de drogue. Il était beau, il était vrai. Est-ce que vous me suivez ? C'était là où il en était. C'était là où il en était. Et je prie Dieu qu'on puisse nous accepter là où on en est. Je vous invite juste à fermer les yeux. J'aimerais qu'on prie ensemble.